Vous êtes sur RTL.
Vous écoutez RTL, il est 12h30.
RTL.
Nous sommes absolument ravis de vous retrouver dans ce rendez-vous qui est le vôtre, qui est le mien et qui constitue ce mien plus ce vôtre, ce nôtre. En effet, chaque semaine maintenant, depuis quelques années, nous nous retrouvons à intervalles réguliers, cette régularité qu'on appelle hebdomadaire puisqu'elle a lieu chaque semaine. Nous nous retrouvons pour ce rendez-vous de l'amitié, de la sincérité, de l'amour.
Le journal inattendu.
Je voudrais pas crever avant d'avoir connu les chiens noirs du Mexique qui dorment sans rêver. Les singes à cul nus, dévoreurs de tropiques. Les araignées d'argent au nid truffé de bulles.
12h30, 13h30.
Vous savez, moi je crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations.
Moi, si je devais résumer ma vie aujourd'hui avec vous, je dirais que c'est d'abord des rencontres. Des gens qui m'ont tendu la main peut-être à un moment où je ne pouvais pas, où j'étais seul chez moi. Et c'est assez curieux de se dire que les hasards, les rencontres forgent une destinée. Parce que quand on a le goût de la chose, quand on a le goût de la chose bien faite...
C'est fini, oui.
Le journal inattendu d'Edouard Baird avec Vincent Parisot sur RTL.
Mais demain, qui sait, peut-être simplement à me mettre au service de la communauté, à faire le don de soi.
Bonjour Edouard Baird.
Bonjour Vincent.
Merci d'être pour une heure le rédacteur en chef de journal inattendu au moment où vous reprenez sur la scène du théâtre Antoine les élucubrations d'un homme soudain frappé par la grâce. Alors, on va y venir, hein. Disons tout de suite que c'est l'histoire d'un acteur qui déserte son spectacle et qui trouve refuge dans le théâtre voisin. Bon, vous n'allez pas, je l'espère en tout cas, déserter ce studio et ce journal inattendu. Vous restez là jusqu'à 13h30. On va parler de cette pièce, de votre parcours, de votre vie. Écoutez le reportage inattendu consacré aux zadistes de Notre-Dame-des-Landes et à leur quotidien maintenant que le projet d'aéroport est envolé. Ça va faire 2 ans. Et puis après 13h, on va recevoir votre invité, Jean-Paul Chambas, artiste peintre, mais aussi décorateur de théâtre, d'opéra. Et surtout, et j'ai envie de dire, forte personnalité de l'art contemporain. Donc il va nous rejoindre dans une demi-heure. Puis il y aura des surprises, vos choix musicaux. Et avant cela, et avant les infos que vous pourrez commenter si vous le souhaitez, cher Edouard Baird, vous devez vous tirer le portrait d'une certaine manière.
Je m'étais bien écrit, ne pas commenter les infos. C'est le genre de truc où sur le moment, vous savez, c'est comme les conversations, on a l'impression de dire des trucs intelligents. Puis après on se réécoute, on dit, mon Dieu, mais tais-toi donc.
Bon. On verra cela, le journal, dans un instant. Hein. Vous ferez ce que vous voulez, vous avez carte blanche. Y compris, pour nous dire, en quelques mots, peut-être, ce que vous pensez de vous-même.
Ah non, mais c'est très difficile. Alors, ouais. Je me suis dit, comme vous aviez dit que c'était ça le petit exercice, que j'allais reprendre... un petit texte de Romain Garry que je dis à la fin du spectacle, qui est extrait d'un de ses livres qui s'appelle « La nuit sera calme », où il se pose des questions à lui-même, comme s'il était quelqu'un d'autre que lui. Il se regarde et il se demande « Est-ce que tu as des regrets ?» Et il dit « Je n'ai pas assez écrit, je crois que je n'ai pas su aimer. C'est quoi la mort pour toi ?» C'est un peu surfait, on devrait essayer de trouver autre chose, non ? Et à la fin, il se demande « Est-ce que tu as été heureux ?» Oui, non, je ne sais pas, entre les gouttes. Et c'était quoi le bonheur pour toi? C'est quand j'étais allongé, j'entendais ses pas dans l'escalier, j'entendais la clé dans la serrure, j'entendais les paquets qu'elle ouvrait dans la cuisine. Elle m'appelait pour savoir si j'étais là, je répondais pas, je me cachais, je souriais, j'étais heureux, ça ronronnait à l'intérieur, je me souviens très bien. Et pour conclure, la nuit sera calme. Voilà, je trouve que c'est un beau...
Edouard Baird, la nuit sera calme. La nuit sera calme. Oui, jusqu'à 13h30, il est l'invité, le rédacteur en chef du journal inattendu. Alors on commence par cette actualité du samedi 11 janvier, assez dramatique puisqu'un policier est entre la vie et la mort. La nuit dernière à Bron, près de Lyon, lors d'une opération d'interception d'un fourgon suspect, le conducteur a écrasé donc ce policier âgé de 45 ans avant de prendre la fuite. On sera sur place dans un instant. L'actualité c'est aussi la consternation après l'aveu de Téhéran qui reconnaît que sa défense antiaérienne a bien abattu le Boeing ukrainien mercredi avec 176 personnes à bord. Une grande tragédie et une erreur impardonnable, dit le président iranien. En tout cas, l'Ukraine et le Canada demandent des comptes et une enquête approfondie. Pour l'instant, pas de réaction de Washington. L'attente en France au 38e jour de grève contre la réforme des retraites. Édouard Philippe doit s'adresser au syndicat au syndicat ses propositions concrètes par écrit dans la journée. Grande question, âge pivot ou non, pour l'instant, mystère. En attendant, c'est un samedi de manifestation, défilé à Paris, Nation Bastille à 13h30, donc évitez le quartier, Edouard, en quittant RTL, et puis également des manifestations dans d'autres...
Vous pouvez pas annoncer les actualités, nous dire de les éviter quand on a la chance d'être dedans.
Bon, bah, allez-y, si vous voulez. Et puis le sport, vous êtes un grand passionné de sport.
C'est ma vie, c'est la base de ma vie.
Je m'en doutais un petit peu. Les Bleus du volley au JO et les footballeurs de l'OM bien accrochés à la deuxième place après leur victoire à Rennes hier soir. Et puis le reportage inattendu, c'est ce que vous nous avez demandé, Edouard. Donc on ira voir les zadistes de Notre-Dame-des-Landes 2 ans après l'abandon du projet d'aéroport. Valérie Quintin, question météo, c'est plutôt ensoleillé.
Ouais, j'ai rallumé la lumière, ça y est, c'est bon. On a du soleil sur pas mal de régions. Alors pas partout quand même, ça reste assez brumeux. Ça va être le cas tout l'après-midi entre Lyon et Nancy. Donc vraiment entre la région lyonnaise et la Lorraine, franchement, ça va pas se lever dans ce coin-là. Ça va rester vraiment très très chargé. Ailleurs, on va profiter d'un très bel après-midi ensoleillé, sachant quand même qu'une autre dégradation est à nouveau en embuscade et qu'il y aura donc des nuages un peu plus nombreux ce soir près des côtes de la Manche. Les températures cet après-midi, elles sont dans le même état qu'hier. 6 degrés sur Nancy, 8 à Lyon et Strasbourg, 9 à Rouen et Paris, 10 à Toulouse, 13 à Marseille, 16 à Ajaccio.
C'est très beau hein, votre présentation de la météo, parce qu'il y a tout un vocabulaire un peu guerrier comme ça, en embuscade. Il y a des gens, on imagine des nuages qui se planquent, qui disent chargé, il y a la pluie qui est là, il y a la tramontane qui dit à moi, c'est magnifique, là, vous avez fait vivre ça.
Eh ben, j'espère que vous avez pris des notes d'ailleurs, parce que à 13h, ça sera vous, monsieur Météo.
Je ne fais que prendre des notes.
Le journal inattendu sur RTL.
On prend bien sûr la direction de Bron, dans la banlieue de Lyon, où les policiers sont sous le choc, puisque vous le savez donc, l'un d'eux, un homme de la sûreté départementale âgé de 45 ans, est entre la vie et la mort depuis la nuit dernière. Il a été écrasé par le conducteur d'un fourgon qu'il tentait d'appréhender. Nerissa Emani, vous êtes en direct, vous êtes sur place.
Oui, c'est ici, sur une bretelle de la sortie du périph lyonnais, à l'entrée de Bron, que se sont déroulés les faits. Sur le sol, quelques traces de sang mélangées à de la sciure témoignent du drame. En fait, vers 2h du matin, les policiers de la Sûreté départementale de Lyon sont en pleine opération de surveillance quand ils assistent à un vol en flagrant délit. Des hommes à bord d'un fourgon et d'une Renault Mégane sont en train de voler la marchandise d'un camion garé sur une aire d'autoroute sur la 43. S'ensuit alors une course-poursuite qui se termine ici, sur cette bretelle du périphérique. Le conducteur de la camionnette tente alors d'échapper à la police. Il fait marche arrière, puis marche avant et percute violemment un agent. Projeté sur plusieurs mètres, l'homme de 45 ans est très gravement touché. Vous l'avez dit, entre la vie et la mort. Son état laisse peu d'espoir, selon le ministre de l'Intérieur. Le conducteur du fourgon est quant à lui toujours en fuite et activement recherché. En revanche, l'homme de 19 ans qui conduisait la Renault Mégane a été arrêté tôt ce matin. La police judiciaire de Lyon a ouvert une enquête pour tentative d'homicide sur personne dépositaire de l'autorité publique.
Nerissa Emani en direct de Bron pour RTL. On en est au 38e jour de grève contre le projet de réforme des retraites. Le conflit semble aujourd'hui en tout cas suspendu aux annonces du gouvernement malgré les manifestations du jour. Édouard Philippe s'est en effet engagé hier soir après avoir rencontré les syndicats et le patronat à leur envoyer dans la journée, par écrit, par mail, des propositions concrètes qui pourraient former la base d'un compromis. Alors pour l'instant, on n'en sait pas plus. Christophe Ponzio, et le grand point d'interrogation, c'est l'âge pivot.
Effectivement, ce courrier en cours de rédaction enterrera-t-il ou suspendra-t-il cet âge d'équilibre financier à 64 ans ? Mettra-t-il fin au bonus-malus pour tous ? Renverra-t-il le sujet au débat parlementaire ? Le Premier ministre va dans tous les cas tenter de temporiser pour parvenir à enfin recevoir l'onction des syndicats réformistes, CFDT en tête, car une porte de sortie sur l'âge pivot semble à ce stade indispensable pour obtenir la base du consensus promise hier soir par Édouard Philippe, sans quoi les futures discussions risquent d'être minées. Alors pour ce qui est des mesures concrètes, Matignon va développer ce qu'il qualifie d'excellente idée. L'organisation d'une conférence de financement en parallèle à l'examen du projet de loi sur les retraites d'ici à cet été. Dans son courrier, le Premier ministre indiquera donc les modalités de cette réunion entre partenaires sociaux. Et puis les objectifs, sans doute les économies qu'il souhaiterait que la réforme génère, 3 à 12 milliards d'euros par an entre 2022 et 2027, ce qui pourrait toutefois crisper les syndicats, échaudé par l'expérience de la réforme de l'assurance chômage où l'État avait in fine repris la main. Ce qui est sûr, c'est qu'après avoir vu hier soir le président Emmanuel Macron, Édouard Philippe veut qu'une solution émerge tout en maintenant son projet de système de retraite universel par points.
Christophe Ponzio, merci de ces précisions. Vous savez quand vous partirez à la retraite, Édouard Baird ? C'est une préoccupation ou pas ?
On a la chance de faire des métiers où on espère ne jamais partir à la retraite, parce que je ne saurais pas vivre autrement que... Alors c'est très difficile évidemment de donner son opinion sur là-dessus.
Bon, en tout cas, en attendant les propositions du Premier ministre, les syndicats continuent de mobiliser. À Paris, une manifestation va démarrer à 13h30 de la Nation.
En tout cas, ça serait formidable que, évidemment, qu'ils doivent régler le court terme, c'est l'avenir des retraites, mais qu'aussi sur le contenu du travail, qu'on fasse une vraie réflexion. Pourquoi est-ce que on fait aujourd'hui des métiers que les gens ont envie d'arrêter? Est-ce que ça ne ferait pas partie d'une chose gouvernementale d'essayer d'améliorer le contenu des métiers, le rapport les uns aux autres et aux hiérarchies dans les métiers?
Bon bah voilà, ça c'est dit effectivement, mais ça va bien au-delà de la retraite. En attendant,
un deuxième débat sur le long terme, voilà, sur ce que c'est que le travail. Oui.
On est sur le premier débat sur la réforme des retraites. Il y a eu des rassemblements déjà ce matin en province, notamment à Toulouse. Ça s'est passé dans le calme, Patrick Hisson.
Oui, dans une ambiance assez détendue avec des manifestants moins nombreux que jeudi dernier, mais toujours aussi déterminés, comme Alain, un conducteur de la SNCF et militant de la CGT.
Ça fait plus d'un mois qu'on est dans l'action et moi j'ai pas vu passer ce mois. La fatigue, elle commence à y être, mais la détermination, elle est toujours là. Aujourd'hui, de l'argent, il y en a. Pour les retraites, pour le financement, il y en a. Il faut un retrait pur et simple. Il nous parle d'une retraite universelle. Aujourd'hui, il est en train de créer une multitude de petits régimes spéciaux qui va coûter encore plus cher que ce qui avait été mis en place.
Le retrait pur et simple, c'est également la seule revendication de Serge Cambou, le secrétaire de Force ouvrière en Haute-Garonne.
Ils n'arrêteront rien uniquement avec l'âge pivot s'il n'y a pas des propositions d'avancer par rapport au projet de loi de la retraite par points.
Vous, ce que vous demandez, c'est que le débat parlementaire soit repoussé.
Ben déjà, ça serait un minimum.
Le minimum, donc, pour l'immense majorité des manifestants en Toulouse hein, aujourd'hui, dans un cortège qui a pris fin il y a une vingtaine de minutes.
Patrick, ils sont à Toulouse pour RTL. On marque une courte pause dans le journal inattendu d'Edouard Baird. Et puis dans un instant, on revient sur l'actualité, l'aveu de l'Iran. Et puis on ira à Notre-Dame-des-Landes.
Le journal inattendu sur RTL avec Edouard Baird et Vincent Parisot.
Depuis jeudi, les soupçons s'amplifiaient quant à la responsabilité de l'Iran dans la catastrophe aérienne du Boeing 737 ukrainien écrasé près de Téhéran avec 176 personnes à bord. Eh bien, désormais c'est clair, les autorités iraniennes reconnaissent que leur défense antiaérienne a bel et bien abattu par erreur cet appareil pris pour un avion hostile. C'est bien sûr un choc en Iran, au Canada et en Ukraine notamment. Christophe Decroix, on se demande forcément comment une telle erreur a pu être possible.
Écoutez, j'ai sous les yeux le communiqué de l'armée iranienne. Je vais donc vous donner leur dernière version. Il rappelle que le pays était cette nuit-là dans une extrême tension. Après l'assassinat par les États-Unis du général Soleimani, les Iraniens venaient de bombarder des bases militaires américaines. Les forces d'armée iraniennes s'attendaient donc à être à leur tour bombardées. Et elles disent qu'il y avait de fait de nombreux avions de combat américains qui s'approchaient du pays. La DCA iranienne était en état d'alerte maximale quand l'avion de ligne ukrainien qui venait de décoller de Téhéran a pris en tournant la direction d'un centre militaire sensible tenu par les gardiens de la Révolution. Ils ont cru que c'était un avion hostile et ils ont tiré. Ça semble incroyable, mais c'est une version assez vraisemblable.
Ouais, en tout cas, cet aveu iranien, Christophe, risque-t-il de mettre encore de l'huile sur le feu dans le bras de fer Washington-Téhéran?
Je ne pense pas. Contrairement aux premières heures, les Iraniens reconnaissent leur faute. Un général a dit tout à l'heure qu'il endossait toute la responsabilité de ce drame. Et les autorités iraniennes semblent collaborer avec l'Ukraine et le Canada, hein, les deux pays les plus concernés par ce drame, pour l'enquête. Les 176 passagers du vol PS-572 sont les victimes collatérales d'une tension entre Américains et Iraniens. Mais leur sort tragique ne devrait pas réenclencher d'escalade, sauf si l'enquête venait démontrer que le tir était intentionnel.
Christophe Decroix du service étranger d'RTL. Sachez aussi qu'Emmanuel Macron a rencontré pour la première fois hier les 150 Français tirés au sort pour la Convention citoyenne sur le climat. Le président s'est déclaré en faveur d'un référendum sur certaines des propositions qui seront faites. Mais attention, il ne s'agirait pas d'un référendum qui aurait valeur de texte de loi s'il était adopté. Il aurait en fait une valeur consultative qui pourrait donner lieu éventuellement par la suite à un texte soumis au Parlement. Et il en a profité d'ailleurs pour dire au passage qu'il n'est pas favorable au référendum d'initiative citoyen, le RIC, réclamé par les Gilets jaunes, parce que, dit-il, il faudra toujours quelqu'un pour endosser les décisions difficiles.
Moi, je suis très pour les référendums en général, ouais. Les référendums locaux surtout. Je crois que personne n'acceptera l'Europe si on ne met pas plus de local. Et puis, c'est une façon de temps en temps de se rappeler que la démocratie, ce n'est pas de donner un blanc-seing pour 5-7 ans à des gens. Je trouve que ce serait formidable de trouver un système, de faire des référendums réguliers, surtout sur des choses où on doit nous prendre nos responsabilités. Je pense à un truc très con. Oui. Quand on dit, allez, là, quand on engueule le gouvernement, on dit c'est une honte, par exemple, de vendre des armes dans des pays, mais on devrait nous dire, écoutez, si vous voulez plus de vente d'armes, on fait un référendum. Voilà, par foyer, ça ferait autant d'euros de moins. Est-ce que que vous êtes prêts à sacrifier de l'argent et être plus moraux.
Voilà, donc on la démocratie vraiment directe, y compris sur des questions sensibles comme celle-là.
Et puis le local, ça c'est essentiel aussi.
Bon, je sais que vous êtes un passionné de sport. Écoutez bien, l'Olympique de Marseille en Ligue 1 consolide sa deuxième place après sa victoire à Rennes hier soir 1-0. Les Bretons, troisième au classement, ont maintenant 8 points de retard sur les Marseillais. Je sais qu'à 17h30, Edouard Baer, vous regarderez, vous écouterez RTL pour suivre Bordeaux-Lyon. Et que ce soir...
En boucle.
Et ce soir, ce sera sur RTL, le multiplex RTL, le Parisien.
Mais que sur RTL, les autres médias n'existent plus.
Exactement, c'est pour RTL. Oui. Et puis le volleyball, bravo aux Français.
Merci,
qui pourront défendre leur chance aux Jeux de Tokyo. Les Bleus qui ont remporté hier le tournoi de qualification face à l'Allemagne 3-0.
Le reportage inattendu.
D'Edouard Baer, c'est ce que vous nous avez demandé. Edouard, vous avez souhaité qu'on retourne voir les Zadis de Notre-Dame-des-Landes maintenant que le projet d'aéroport est enterré, ça fait 2 ans.
Oui.
Pourquoi ce choix ?
Il y a 3 raisons, Vincent. D'abord, je me suis dit que pour le journaliste, c'était sympa.
Oui, c'est vrai, ça lui a fait une petite sortie.
J'ai fait une balade. Deuxièmement, moi je trouve ça extraordinaire, les gens qui cherchent d'autres façons de vivre, d'autres façons de mener leur vie. Et puis j'aime bien quand on retourne dans des endroits hors actualité, des endroits inactuels. C'est-à-dire qu'on va toujours dans un endroit quand il y a un problème, et une fois que la vie reprend son cours, ça nous intéresse plus. Je trouve qu'on devrait retourner comme ça sur des lieux de tension quelques années après. Je pense à des villes africaines où on ne va que quand il y a des guerres ou des coups d'État. J'aime bien voir comment je trouve que c'est formidable. L'actualité, c'est de voir comment les gens vivent ce qu'on appelle la vie normale.
Eh ben, vous allez voir comment ils vivent, ces zadistes, et c'est Patrice Gabart qui a eu la chance d'aller faire cette petite balade, comme vous dites. Reportage.
Après une première expérience de la ZAD en 2013, Romain revient à Notre-Dame-des-Landes 4 ans plus tard pour s'y installer, et il est aujourd'hui l'un des 15 porteurs de projets agricoles validés par la DDTM, la Direction départementale des territoires et de la mer.
J'ai 90 brebis, 2 ânes, et je me suis installé sur 45 hectares. Là, je reprends tout l'entretien du bocage qui a été plus ou moins abandonné, et remise en état des haies, des chemins. Je taille des ronces, du bois, j'élague des arbres pour entretenir la haie, comme ça c'est toujours fait dans notre bocage l'hiver, quoi. Et aussi parce qu'on a besoin de bois de chauffage.
Ce matin-là, Romain étend son linge dans la jolie yourte construite de ses propres mains et s'occupe de son fils, âgé de 2 ans.
Aujourd'hui, je vis dans une yourte. Grosso modo, on n'a pas l'eau et pas les lecs. Voilà. Mon quotidien, c'est de me lever le matin au lever du jour, d'aller voir en ce moment si j'ai des agneaux qui sont nés. J'ai croisé d'autres gens en formation à la Chambre d'agriculture. Ils m'ont fait, mais t'es complètement fou de faire ça. Et moi, je les regarde. Je fais, mais vous êtes complètement fou de vous installer, de vous mettre 300, 400 000 euros d'emprunt sur le dos.
Un choix de production, un choix de vie et un choix de société qu'il assume entièrement.
Ça fait 20 ans que je travaille dans le monde agricole. Je suis toujours en train de dire, il faut nourrir la planète. Nourrir la planète m'a jamais donné envie, mais nourrir mes voisins, ouais. Là, du coup, moi, l'idée, c'est de tout produire en agriculture biologique et en vente directe.
Après la bataille du foncier, la répartition des terres agricoles qui se termine sans trop d'accrocs, c'est aujourd'hui la bataille de l'habitat pour les 150 à 200 personnes qui vivent actuellement sur place. Le problème, c'est le nouveau plan local d'urbanisme qui, depuis le 18 décembre dernier, limite les constructions et en particulier les habitats autoconstruits. Ce que dénonce John, l'un des acteurs du premier camp climat en Angleterre, dont s'est inspiré justement la ZAD à ses débuts.
Tu vis en village, tu prends ta voiture pour venir sur tes terres pour planter tes légumes bio, ça n'a aucun sens. T'as le droit de construire une énorme porcherie, t'as pas le droit d'avoir une cabane où tu mets ta ferme paysanne. C'est absolument ridicule.
Surtout que le mode de construction est éco-responsable et s'inscrit dans le développement durable.
Et ben ici, on a des bâtiments en terre paille qui sont faits avec les matériaux du coin, du bois de la forêt, des pailles d'un voisin agriculteur, de la récup de tôle agricole, et avec ça, on peut continuer à habiter sereinement dans le bocage.
Antonin, l'un des porte-parole de la ZAD.
Pour l'instant, on n'a pas été entendu, et du coup, nous, on souhaite au printemps ouvrir des tables de négociation avec les communautés de communes pour que dans un territoire agricole, il y ait d'autres activités, une boulangerie, une menuiserie, qui pour l'instant n'est pas possible.
En attendant, tous ici préparent la fête du 17 janvier pour le 2e anniversaire de l'abandon du projet d'aéroport de Notre-Dame-des-Landes.
Reportage inattendu, Patrice Gabart, c'est étonnant quand même.
Oui, c'est chouette, c'est beau, nourrir la planète c'est abstrait, mais nourrir mes voisins, je vois ce que c'est. Ouais. Et pourquoi on emmerde ces gens? Pourquoi est-ce que tout à coup on leur met des trucs, des lois pour... Je vois pas qui s'embête que des gens essayent autre chose, quoi. C'est fou, les trucs, le monde des normes, le monde des normes, des énormes normes.
Allez, à tout de suite sur RTL, après le monde des normes, les élucubrations d'un homme soudain frappé par la grâce. C'est lui, c'est Edouard Baer, et il est l'invité du journal inattendu. À tout de suite.
Le journal inattendu d'Edouard Baer avec Vincent Parisot sur RTL.
Ah, je reprends le marché comme up. J'ai du sale dans mon labo. À tous ceux qui m'ont dit, ne sont-tu diminué? T'es défoncé, tu ressembles à un hibou. Quand j'étais ici, t'étais là. là-bas. Je m'étais ici quand ça sentait la beuh. Cela c'était comme un repas. Dès que j'ai reparé, elle me rappelle. Je devais pas trop durer. De toute façon, l'histoire se répète. Je me sens bien pendant. Quelques feuilles,
alors ça, c'est l'un de vos choix musicaux, Édouard ouais. Baird. Vous nous avez même précisé que vous y teniez. Il s'appelle Nuski, c'est le nom de ce jeune rappeur. Le titre s'intitule « Deux minutes ». Alors, il faut peut-être un petit peu tendre l'oreille pour bien comprendre le texte.
Ouais, il a un monde délirant, je trouve, une sorte d'énergie étrange. Il invente un langage, un son. C'est vraiment un talent très, très singulier, Nuski. Mmh.
C'est pour le son, c'est pour la sonorité, c'est
tout
pour
la
les
langue,
textes.
L'invention, c'est l'originalité totale, je trouve, que dans les sons actuels, entre le rap, l'électro, il mélange et il invente quelque chose. Je trouve ça vraiment magnifique.
Nuski, donc l'un des choix, le premier choix musical d'Edouard Baird. Alors Edouard, vous êtes sur la scène du Théâtre Antoine pour la reprise des Élucubrations d'un homme soudain touché par la grâce. Et c'est l'histoire de...
Il faut que je finisse cette phrase.
Oui, l'idée, c'est ça.
Merde. Ah oui, d'accord. Bah, c'est l'histoire d'un mec, hein, voilà. Comme dirait Coluche. Non, c'est l'histoire d'un type qui s'est enfui, quoi. C'est l'histoire d'une fugue. J'ai essayé d'imaginer des gens à des croisées de leur vie, tout à coup, qui n'y vont pas. Alors, je suis parti au moment où je me suis dit, tiens, qu'est-ce qui serait passé si, par exemple, un homme politique qui a attendu pour le discours de sa vie, par exemple, Mélenchon à Marseille, ou bien Macron juste avant de rencontrer les maires, à un moment, on en a tellement. Et tout à coup, au dernier moment, il n'a plus le courage d'y aller, quoi. Il s'enfuit. J'imaginais Macron au moment où vraiment tout le monde le hait. Des gens disent sa femme, t'es ça, des remarques antisémites, des remarques sur tout. Et tout à coup, il doit aller, il pleut, il va au fin fond de la Normandie. Il est là, il trouve, et tout à coup, il s'arrête, il n'a pas envie d'aller en gare, il dit à son chauffeur, attendez-moi là une seconde, il rentre dans le café. Et là, j'ai pas fait ça pour ça, quoi. Voilà. Ou Mélenchon, pareil, avant Marseille, il y a trop de pression. Ou bien Patrick Modiano, l'écrivain qui va recevoir son prix Nobel, à Stockholm, je crois que c'est à Stockholm.
Oui,
et tout à coup, juste, il est dans son hôtel et juste avant, il dit, mais c'est idiot, je vais devenir un people, tout le monde va me connaître. Et donc, c'est la fin du mystère. Et donc, j'ai pas envie. Et tout à coup, il disparaît. Donc, j'aime bien les gens qui... Et on ne sait jamais si c'est ça la lâcheté ou le courage.
Alors, c'est ce que j'allais vous dire, parce que c'est vrai que c'est assez...
Est-ce que la lâcheté, c'est de continuer?
C'est assez fascinant, cet instant du refus d'aller plus loin. C'est vrai que vous dites, c'est l'histoire un peu de celui qui va acheter des allumettes au coin de la rue.
Oui, il y a une chanson de Jenny qui revient 40 ans après.
On en reparlera d'ailleurs de cette chanson. Donc, ma question, c'est, le fuyard est-il forcément un pleutre?
Mais non, je trouve que c'est extraordinaire. Vous savez, c'est celui qui dit non. Le héros, c'est pas celui qui obéit, c'est celui qui dit non, c'est celui qui a une conscience. Je crois que c'est un truc un peu animal. Il faut faire confiance à une partie de soi, à la partie animale qui y va ou qui n'y va pas. Le refus à l'obstacle, vous savez, c'est le truc qu'on dit ça
en équitation.
Oui. Ouais. C'est-à-dire que la partie cavalier veut y aller, puis la partie cheval, elle.
Alors, ce qu'il y a de formidable dans cette pièce, c'est que ça a un côté un peu happening. Vous convoquez, alors c'est vrai, vous l'avez souligné, Romain Gary, Bukowski, André Malraux, Boris Vian. Ce sont des écrivains qui sont dans votre panthéon.
Oui, c'est ça. Mmh. C'est aussi un hommage à des gens que j'ai énormément admirés depuis mon enfance, depuis que je... À la fois comme écrivain et comme posture dans la vie. Moi, j'aime bien les gens qui sont aussi des héros de la vie. Quoi.
Ouais, qui ont bien brûlé leur vie aussi, pour l'essentiel.
Oui, mais c'est pas des héros dans le sens... C'est pas des moines, c'est pas des moines soldats.
C'est pas des moines,
c'est
non.
Des personnages, c'est comme on dit, des gens qui sont plus grands que la vie, que c'est des intensités de vie dingues.
Alors, il y a évidemment Boris Vian. On pense à Boris Vian.
Je voudrais pas crever avant d'avoir connu les chiens noirs du Mexique qui dorment sans rêver. Les singes à cul nus, dévoreurs de tropiques. Les araignées d'argent nitruffées de bulles. Je voudrais pas crever sans savoir si la lune, sous son faux air de thune, a un côté pointu.
Je voudrais pas crever. Donc, texte sublime de Boris Vian, que beaucoup d'autres ont interprété. Là, c'était vous.
Oui, c'est Fred Palem qui avait fait la musique.
Ouais. On peut citer Reggiani, Trintignant, évidemment Pierre Brasseur.
Pierre Brasseur, Jean Rochefort aussi a dit ce texte. Alors, c'est extraordinaire parce qu'il y a une version de Pierre Brasseur. Il dit ça, c'est très très gourmand. Il dit, je voudrais pas crever sans avoir mis une robe sur les grands boulevards. Et tout à coup, il se dit que la vie va encore être magnifique. Et dans la version de Trintignant, le même texte, c'est comme s'il disait adieu. Et ça, l'interprétation, c'est magique. Il dit, je voudrais pas crever sans avoir connu. Et on sent qu'il fait des adieux à la vie. C'est les mêmes mots, et ça veut dire le contraire.
Cela dit, on se dit forcément tout ça un jour ou l'autre. Je voudrais faire ça avant de mourir, absolument. Vous ne voudriez pas crever, Edouard Baird, avant d'avoir connu quoi?
Ah, mon Dieu! Non, mais moi, c'est pas d'avoir fait des choses, c'est d'avoir des gens avec qui passer ma mort, quoi. Je voudrais pas crever avant d'être sûr d'avoir rencontré assez de gens pendant cette vie avec qui passer la mort.
Ouais.
traverser le
Oui, des gens qu'on a envie de retrouver, de ne pas être lassé des gens, d'être toujours gourmand enfin, gourmand, c'est un drôle de mot, des autres, quoi, d'avoir, oui, de dire qu'il y a des gens qu'on aime à vie, on s'étripe, on s'engueule, on se réconcilie, puis on s'ennuiera jamais. Ouais.
Les élucubrations d'un homme soudain touché, frappé,
que le type est devenu fou.
Voilà, hein. frappé,
touché par la gaze, ça serait prétentieux. Là, le mec, il est frappé par la gaze. Ouais. C'est comme dans Tintin, il y a un personnage qui s'appelle Lupulu, je crois, qui marche pieds nus et qui dit la fin du monde est proche.
Ah, bah oui, bien sûr, dans l'étoile mystérieuse.
Oui, c'est un peu des prédicateurs fous, avec des frappés par la grâce, tremblés.
C'est au Théâtre Antoine à Paris, et on vous retrouve dans un instant avec votre invité, Jean-Paul Chambas.
Oh, Chambas
ici, avec son grand chapeau. A tout de suite. RTL, il est 13h01.
Journal inattendu d'Edouard Baird.
13h, les titres de l'actualité. Vincent Parisot.
Et l'actualité de ce samedi 11 janvier, c'est ce policier qui est toujours entre la vie et la mort depuis la nuit dernière. À Bron, près de Lyon, lors d'une opération d'interception d'un fourgon suspect, le conducteur a écrasé la victime, ce policier donc âgé de 45 ans, avant de prendre la fuite. La consternation après l'aveu de Téhéran, qui donc reconnaît que sa défense antiaérienne a bien abattu le Boeing ukrainien mercredi avec 176 personnes à bord. Une grande tragédie et une erreur impardonnable, dit le président iranien. L'Ukraine et le Canada demandent des comptes et une enquête approfondie. Pour l'instant, pas de réaction de Washington. L'attente en France au 38e jour de grève contre la réforme des retraites. Édouard Philippe doit adresser par écrit au syndicat ses propositions concrètes dans la journée. H pivot ou non, pour l'instant, le mystère reste entier. Les manifestations, en tout cas, sont maintenues. Il y en a déjà eu plusieurs en région ce matin. Cet après-midi, défilé à Paris, Nation Bastille, à 13h30. Et puis le sport, les Bleus du volley sont aux Jeux Olympiques. Ils ont remporté le tournoi qualificatif hier soir en battant l'Allemagne. Ils iront donc au Japon. Et puis les footballeurs de l'OM sont bien accrochés à la deuxième place de la Ligue 1 après leur victoire à Rennes hier soir. À suivre Bordeaux-Lyon à 17h30 et ce soir le multiplex RTL, le Parisien, aujourd'hui en France. Vous l'attendez tous, c'est pour maintenant la météo signée Edouard Baird.
En effet, on m'a donné le texte de la météo. Il n'y a pas que des bonnes, il n'y a pas que des mauvaises nouvelles. Cet après-midi, le temps sera ensoleillé dans l'ensemble. Qui dit l'ensemble, dit la solidarité, la fraternité, tous ensemble, sous le soleil. Quant aux régions de l'Est, elles auront un peu de mal à se débarrasser de la grisaille, est-ce leur faute? Notamment entre la Lorraine, la Croix-de-Lorraine et la région lyonnaise, capitale de Gaulle. À noter ce soir, notons-le, car si on ne note plus les choses, elles ont lieu en vain. Un ciel de plus en plus nuageux, la menace gronde le long des côtes de la Manche. Ô mer, mer, homme libre toujours tu chériras la mer. Quelques gouttes de pluie entre le Finistère et le Cotentin, combien de gouttes par homme, combien d'hommes par goutte. Quant aux températures, elles iront de 6 à 16 degrés, c'est dire l'écart, il y aura du 7, du 8, mais vous connaissez les chiffres autant que moi, puisque nous fréquentâmes l'école de la République. Du nord au sud, il fera 9 à Paris, Paris son arrogance qui s'annonce avant les autres villes, pourquoi? Et à Montauban, toujours 2 minutes d'arrêt. Montauban, 2 minutes d'arrêt!
Tout le monde descend.
C'était pas du Malraux, c'était du Baird, la météo, évidemment. Merci beaucoup, c'est votre journal inattendu, Edouard.
C'est ambitieux d'embrasser. Embrasser un paysage, c'est le saisir dans son entier. C'est aussi s'y confondre, entrer dedans. Je voudrais habiter un tel bout de Jean-Paul Chambas pour ne jamais m'ennuyer, pour le tourment, la passion, l'étreinte. Parce que Chambas est un homme amoureux. L'énergie de sa peinture, c'est une sorte d'immortalité.
Ah voilà, une bien belle présentation de votre invité, Jean-Paul Chambas, Edouard Baird, par vous-même, hein, c'était vous qui parliez de lui, avec en prime, puisque vous parliez d'immortalité à travers sa peinture, tiens ce clin d'œil posthume à Bowie, parti il y a 4 ans maintenant. Bonjour Jean-Paul Chambas.
Bonjour.
Je vous vois surpris par cette introduction d'Edouard Baird qui parlait de vous, qui disiez, Edouard disait, je voudrais être un personnage dans un tableau de Jean-Paul Chambas. Pourquoi vous disiez ça?
Non, pour l'énergie qu'on sent sur les personnages, sur la peinture, et tout à coup on voit ce que c'est que, vous savez, à un moment dans le spectacle, je parle de Bukowski, pourrais parler de Chambas aussi. C'est-à-dire, ce sont des gens qui n'ont plus rendez-vous, ce sont des artistes complets, c'est-à-dire qu'ils n'ont rendez-vous qu'avec eux-mêmes au fond. Ils n'ont pas de compte à rendre à l'époque, ils n'ont pas besoin de félicitations. applaudissements, ils se foutent des crachats, des refus, ils ont rendez-vous avec, avec le rare, et je trouve ça magnifique.
Vous étiez gonflé comme...
Et tiens, prends non, ça dans la gueule.
C'est ça, Jean-Paul Chamba, c'est un artiste, c'est quelqu'un qui n'a de compte à rendre qu'avec son œuvre. Et
d'autant plus lui-même. Qu'il figure dans plusieurs de mes tableaux.
C'est vrai, c'est vrai.
Et parmi les plus beaux, alors... et c'est vrai qu'il s'est très bien posé. Il tend le bras. Il
dit, parle pas de moi, parle de toi.
Il tend le bras. Il a le mollet et le jarret fixe et le regard du faucon maltais.
Alors voilà, ça c'est formidable parce qu'on on entend. D'abord, je tiens à dire que j'ai face à moi un personnage assez impressionnant venu avec un chapeau haute forme et cet accent du Gers. J'ai lu quelque part que vous revendiquiez de l'avant-garde du terroir, Jean-Paul Chambas. Ça vous dit quelque chose, ça?
Peut-être, oui. Ouais. Non, je
Est-ce que ça
pas.
Explique votre œuvre, votre peinture?
Ça y est dedans. Ouais. De toute façon, c'est le Gers, c'est le terroir en question. Oui, il y est dedans. Il y est dedans parce que... Mais parce que l'Armagnac, que parce que le foie gras, parce que les amours, ouais. parce que le rugby, parce que tous les amis que j'y ai amenés ont adoré ce pays. Alors, j'ai tout fait pour qu'il l'aime, hein. Mais ça a marché. Non, non, bien entendu que ça fait partie de ma peinture. Avant-garde, je ne sais pas. Avant-garde, je ne sais pas. Mais bon, chapeau, oui.
Et figuratif, il y en a plus.
Qu'est-ce que vous diriez de son œuvre aujourd'hui, Herbert, de l'œuvre de Chambas?
Alors effectivement, il y a ça, parce qu'on ne se départit pas de ses obsessions de son enfance. C'est quand une obsession devient un art, comme Modiano en littérature, on dit, tiens, il y a des gens qui disent sans faire attention l'impression qu'il écrit le même livre, qui est toujours différent. Et Jean-Paul, il retourne à ses obsessions, à son enfance, à ses sujets qui l'ont marqué à vie, et avec de plus en plus d'intensité, et suivant son humeur, parce que ses humeurs comptent, de la colère ou de la joie. Tu es de bonne humeur aujourd'hui ou pas?
Je suis de bonne humeur. Je suis de très bonne humeur. Mais ce qui m'a fait peur, c'est que j'ai lu récemment que les gens de bonne humeur étaient bêtes.
Ah, c'est pas très bon.
Alors je me dis que la bêtise était la bonne humeur.
Mais exactement.
Oui, la gaieté serait suspecte.
Oui, depuis, je fais gaffe et j'essaie d'être de mauvaise humeur. J'ai beaucoup de mal.
Alors, c'est vrai que c'est difficile à la radio de donner à voir, hein, de donner envie. Disons que vous avez exposé, je crois, 6 reprises à la FIAC, que vous avez évidemment... créer des décors pour le Festival d'Avignon, pour la Comédie Française, pour l'Opéra Bastille.
Garnier aussi.
L'Opéra Garnier. Ça, ce sont... On vous demande... Ça, d'une certaine manière, quand on vous demande un décor, l'artiste n'a pas vraiment de questions à se poser, ou si?
À l'artiste a des questions très importantes
même,
à se poser.
Même pour une commande, d'une certaine manière.
Évidemment, parce que de toute façon, les commandes ont été toujours le moteur de l'artiste. Ouais. Grosso modo, mais surtout au théâtre et à l'opéra, c'est une commande de l'opéra. Ouais. C'est-à-dire, s'ils me prennent moi, c'est pour que je fasse ce que je veux, quand même. Et on me donne une carte blanche. Et en général, je la prends.
Il y a un vieux compagnonnage avec Jean-Pierre Garnier.
Surtout combien au théâtre, de spectacles avec Jean-Pierre Vincent. Oui,
Jean-Pierre Vincent, je suis fou.
Mais je peux mettre un cheval à l'envers dans le ciel, qui n'a rien à voir avec le spectacle. Il a à voir. Il a à voir parce que j'ai lu le texte, parce que j'ai travaillé la dramaturgie et que j'ai pensé à ça. Donc il a à voir. Alors qu'on ne me pose pas de questions dessus, il a à voir.
Vous refusez d'expliquer...
C'est pas que je refuse d'expliquer, je ne sais pas l'expliquer. Ouais. Je trouve que les gens qui voient mes tableaux se racontent des histoires dessus beaucoup plus intéressantes que celles que j'ai voulu raconter. Moi, en fait, je me soucie de la forme. Je me soucie de la peinture, je me soucie de ce qui va, pas choquer, mais qui va grincer un peu, qui va raconter des histoires parce que ce sont des images. Je ne fais pas une peinture abstraite. Tout le monde, en ce moment, est ébahi à 4 pattes devant Soulages. Bon, Soulages est un peintre abstrait qui fait du noir avec de la, et qui nous explique qu'il fait la lumière avec du noir. Enfin, des conneries, des trucs. Je veux bien. L'ancien joueur rugby de Rodez.
Non, ça dénonce, là, Jean-Paul. T'as une belle colère. Non, mais c'est vrai que... Enfin, pas sûr. Mais en tout cas, dans l'art conceptuel, il faudrait livrer une explication. Et la force, je trouve... Et j'aime bien un tableau sans l'explication, quoi, non?
Je voulais aborder une question avec vous, hors de la peinture. Vous êtes aussi un enfant du rock. D'ailleurs, vous avez peint des artistes de rock. C'est pour ça qu'on vous a accueilli aussi avec Bowie. J'aimerais que vous nous parliez de Jim Morrison.
Ah.
Oui. Mort à Paris en juillet 71 d'une overdose dans une boîte appelée le Rock'n'Roll Circus. Et je crois que vous l'avez croisé là-bas quelques temps avant.
Oh ben je l'ai croisé, on était dans un état moyen. Nous sommes sortis parce qu'on nous a à moitié virés. Et on s'est retrouvés tous les deux d'une manière clochard céleste, quoi, un petit peu. Place Fürstenberg, en train de parler du monde. Et on s'est mis à parler de la poésie, machin, truc. Rimbaud. Ouais. Mais il prononçait Rimbaud comme Rainbow, ouais, comme arc-en-ciel. Et moi, je lui disais, mais non, c'est Rimbaud. Et il avait raison, lui, parce qu'il me parlait d'un arc-en-ciel qui était Rimbaud. Ouais. Et je me suis senti minable, car après, moi, un petit gars de Vic-Zansac voulait expliquer à Jim Morrison, qui était un grand poète, effectivement, qui était Rimbaud, quoi. Mais c'était une très belle rencontre. Mmh. Très belle rencontre qui a fini durement, quoi, dans le dur.
Et ces rencontres, elles nourrissent vos œuvres, elles nourrissent votre travail?
Totalement. Mmh. Totalement. Je me nourris essentiellement de ça. C'est-à-dire, un auteur comme Malcolm Lowry, au-dessous du volcan, je vais sur ses traces au Mexique, je m'habille comme lui, je vais trouver les mêmes cantines, les mêmes folies, les mêmes gonzesses. Enfin, c'est un truc de cet esprit. Si je fais un dessin sur Kafka, il faut que je traverse le pont.
Vous allez à Prague, le pont de Pierre.
Il faut que je trouve un chapeau de ce genre. Ouais, ouais. Il faut que je foule ces putains de pavés de Prague, quoi.
C'est vous n'exposez pas, hein, vous êtes venu
à ce moment. Oui. Je sors de deux énormes expositions, une à Flaran, magnifique, je crois. Exposition. Oh, ouais.
L'abbaye est prête.
L'abbaye cistercienne est la plus belle du monde. Et une autre au musée de Saint-Rémy-de-Provence. Donc maintenant, je m'octroie un peu de temps pour réfléchir et faire de nouveaux tableaux.
Donc on dit aux gens d'y aller il y a une semaine. Quoi.
Voilà.
Allez-y le mois précédent.
Et surtout, allez voir où vous le pouvez, l'œuvre extraordinaire de Jean-Paul Chambas. Merci beaucoup de cette visite amicale.
Ah, tout à fait.
Parce que je sais que vous êtes ami avec Édouard Baer.
Je crois.
Tiens, Édouard, avant de parler de vous, encore une fois, tiens, un de vos choix, Souchon, un terrain en pente, extrait de son dernier disque.
Un terrain en pente. Au-dessus de la ville, des vieux matelas, des plantes et des bidons d'huile. Je monte là où m'asseoir, quand la ville s'allume, je regarde le soir et je fume.
Un terrain en pente, extrait de son dernier disque, album RTL de l'année, Am 50, c'est délicieux.
Ah oui, c'est plus que ça, quoi. Ça serait en anglais, les gens seraient allongés par terre devant la beauté. Ouais. Comme si en français, on se rend pas compte que c'est plus que Bob Dylan, presque Souchon.
A tout de suite sur RTL.
Moi et mon ami, on va tout de là-haut. On attend la nuit, on voit tout de là-haut.
Le journal inattendu sur RTL, avec Édouard Baer et Vincent Parisot.
Je voudrais travailler encore, forger l'acier rouge avec mes mains d'or. Travailler encore, acier rouge et mains d'or.
Bernard Lavillier, Les Mains d'Or, c'est un de vos choix musicaux, un petit plaisir. Pourquoi? Pour le texte, pour cette ode aux travailleurs dans la désindustrialisation.
C'est l'autre Lavillier, on connaît l'aventurier un peu qui était devenu presque caricatural, et puis il y a l'autre, il y a le petit gars de Saint-Étienne, comme ça, et d'arriver à parler de sujets comme ça, qui a priori, on ne sait pas comment mettre du romanesque là-dedans, et je trouve que c'est magnifique quand des artistes, comme ça, sur des petites choses de la vie qui sont essentielles, arrivent à mettre de la grandeur, quoi. C'est un texte magnifique, j'adore Lavillier.
Allez, un autre petit plaisir, retour en 2012.
Serre-moi, s'il vous plaît. Ah, c'est fou l'énergie qu'il y a dans cette ville.
Oui, peut-être.
Ah non, je vous assure, moi j'arrive de Lutèce, je peux vous dire que côté Lutèce, c'est mort. Hein. C'est figé, c'est vraiment une ville musée, Lutèce.
Vous venez de Lutèce?
Oui, enfin juste à côté, quoi, à peine deux semaines de marche. Je sais très bien ce que vous vous dites. Attention, c'est un Gaulois, c'est des séducteurs, faut que je méfie. Je vous fais une confidence, je suis pas du tout un séducteur. Je suis juste quelqu'un qui est là, qui aime ces moments de vie, vous voyez, ces moments de grâce, le temps suspendu, on est là et puis on échange, on se rencontre. Je suis comme cette ville, moi, je suis bourré d'énergie, bourré d'envie, vous voyez, envie de vivre, envie de rire, envie de pleurer.
Vous avez bien entendu, de pleurer, parce que je suis un homme qui pleure, moi. Bande de lire, je pleure très souvent, très très souvent, pour un rien. C'est mes hommes qui pleurent.
Carrément, non.
Astérix Obélix au service de Sa Majesté de Laurent Tirard.
Avec Dolores Chaplin qui joue avec moi. Là.
Ouais. Et vous aimez les hommes qui pleurent? Vous pleurez?
Ah, c'est dans une chanson très géniale. Quoi, c'est... Où est la honte pour un homme de pleurer? Je trouve ça très beau. Et là, je pleure beaucoup, en fait, mais devant des trucs qui disent, je pleure au cinéma très très facilement.
Ah oui?
Oui. Mais vraiment devant.
Vous avez la larme facile au cinéma.
Où j'ai l'impression de me faire arnaquer, vous savez, quand il y a tout à coup un enfant, toute sa famille est morte, il y a quatre violons derrière, on dit,
c'est comme les hommes qui dansent. C'est très émouvant.
J'adore voir les hommes dansent.
Jean-Paul Chambat, c'est vrai, vous aimez voir les hommes.
Plusieurs hommes qui dansent ensemble, c'est très émouvant. Très...
Et quand ils dansent en pleurant, alors on atteint des seuils.
Tiens, on a une question d'Isabelle Mergot.
Surtout s'il y a Lavillier dedans.
Ah, bah oui, alors là, c'est Lavillier qui danse avec un homme, oui, je veux bien voir. Une question d'Isabelle Mergot, qui était à votre place samedi dernier. C'est pour vous.
Bonsoir, Edouard. Alors voilà. Tu me donnes l'impression d'être un solitaire mondain. Ce qui est antinomique. Alors, est-ce que je me trompe?
C'est vrai que solidaire et mondain, ça ne va pas trop ensemble.
Ben, mondain, c'est lié à un type de société un peu chic, un peu entre soi. Je suis un solitaire de groupe, de comptoir, plus. Moi, ça ne m'amuse pas de sortir pour aller dans des milieux où tout le monde se connaît, appartient au même cercle. Mais c'est vrai que j'adore.
Vous avez cette image un petit peu de mondain.
Oui.
Vous l'avez eu.
C'est parce que je présente des cérémonies en smoking, alors forcément, les gens croient que je continue après que je rentre, que je vais faire mes courses dans la même tenue.
Et solitaire?
Oh, ben, solitaire, je sais pas. Écoutez, non, je sais pas. Oh là là, les grandes choses sur soi-même. Mmh. Je suis un solitaire, je suis le veuf inconsolable. Non, je sais pas. Je crois qu'il faut être un petit peu solitaire, mais la le silence qui suit.
C'est... En tout cas, vous avez des amis là en face de vous, Jean-Paul Chambat, et sans doute l'un également au téléphone qui va nous passer un petit coup de fil dans un instant.
Alors Edouard, ça, c'est le secret. Vous m'avez dit, c'est un secret.
Ah bah c'est un secret. Vous ne savez pas qui c'est. Les élucubrations d'un homme soudain frappé par la grâce. C'est au théâtre Antoine. Edouard Baird est avec nous pour encore 10 minutes. Quel bonheur.
Le journal inattendu d'Edouard Baird
avec Vincent Parisot sur RTL.
Les élucubrations d'un homme soudain frappé par la grâce au théâtre Antoine jusqu'au 15 février au moins. On en parlait tout à l'heure, Edouard, et vous nous disiez que ça faisait penser au gars qui part chercher des allumettes au café en bas et qui ne revient pas, que ça fait penser à cette chanson de Reggiani.
C'est moi, c'est l'italien. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Est-ce qu'il y a quelqu'une? D'ici, j'entends le chien, et si tu n'es pas morte, ouvre-moi sans rancune. Je rentre un peu tard, je sais, 18 ans de retard, c'est vrai. Mais j'ai trouvé mes allumettes dans une rue du Massachusetts.
Ah oui, c'était dans le Massachusetts, ces allumettes.
Oui, ça fait... Reggiani, c'est extraordinaire parce qu'il n'a jamais écrit de texte, mais c'est une interprétation réinvente. Il a chanté des textes de Moustaki, fait réécouter. Celle-là, je l'aime un peu moins parce que je trouve qu'il y a une leçon dans la vie, Vincent. Il ne faut jamais s'auto-apitoyer. Ouais. Et là, je trouve que quand on commence à se plaindre soi-même, on dit « Oh là là, j'ai vraiment pas de chance, on est mal barré ».
Tiens, on a un invité surprise pour vous au téléphone. Vous voulez le saluer, tout d'abord?
Oui, bonjour.
Bonjour monsieur.
Bonjour monsieur.
Vous savez de qui il s'agit?
Pas du tout.
Vous voulez des indices?
Oui.
Moi je peux en donner un.
On ira tous au
paradis. Ah bon? Ouais. C'est Paul Naref?
Non, c'est pas Paul Naref.
Qui? C'est un prêtre?
Alors on a écouté Reggiani avant. Paul Naref.
Et c'est Jean-Loup Dabadi.
Ah bah voilà.
Jean-Loup Dabadi, bien sûr.
Je vous aime.
Jean-Loup Dabadi, bonjour Jean-Loup Dabadi.
Bonjour Vincent, bonjour Edouard.
Bonjour Jean-Loup.
Vous nous aviez dit que vous aviez un autre indice à lui donner?
Moi j'aurais pu donner un indice qui était assez balèze. Quand j'ai eu l'honneur, le bonheur d'être élu à l'Académie française, on m'a beaucoup parlé de l'académicien à qui je succédais. C'est un monsieur, un académicien qui s'appelait Pierre Moineau. 40 ans à la Cour des comptes, c'était pas vraiment le genre de personne que je fréquentais. Mais lorsque j'ai fait mon enquête sur lui pour prononcer son éloge, on m'a dit son meilleur ami s'appelait Philippe Baird.
Le papa d'Edouard.
Philippe Baird, c'était le papa d'Edouard. Alors je pense qu'Edouard, secrètement, y est pour quelque chose. Et je vais t'en prendre un suite. Ah, je t'en remercie d'avoir ourdi un complot à ta manière.
C'est vrai que votre papa était...
À la Cour des comptes, il était, oui. Et son meilleur ami, comme son frère, c'était Pierre Moineau, qui est un personnage extraordinaire.
Et vous connaissez bien Jean-Loup Dabadie?
Ben, petit à petit, enfin moi je le connais avant qu'il me connaisse, parce que forcément j'étais un fou des films qu'il a écrits, pour Yves Robert, pour beaucoup d'autres gens, comme dialoguiste, et puis ensuite ses chansons, des chansons justement pour Reggiani, comme la chanson de Paul, et parfois il y a des phrases dans des chansons, il n'y a que Dabadie qui peut faire comme ça. À un moment il fait dire à Reggiani, j'étais très élégant, j'avais ma canadienne, j'ai qu'est-ce que c'est vous plaît.
Et vous Jean-Loup, que vous inspire l'univers d'Edouard Baer?
Moi je suis en amour pour Edouard. Je voulais plaisanter en disant que tout à l'heure, il nous a lu la météo, j'étais en larmes. Vous avez beaucoup parlé de larmes après. Ouais. Je tiens à te rappeler quand même, toi et ta culture, donc tu fais étalage avec malice dans ton magnifique spectacle, que les hommes qui dansent, on peut pas avoir le cœur serré et la larme à l'œil en voyant des hommes danser, depuis la phrase qui nous a tous gouvernés pendant dans nos amours de cinéma, de spectateurs ou d'auteurs, qui est « Tough guys don't dance slow ». La phrase du cinéma noir américain, les durs, tough guys, ne dansent pas le slow. Alors, tu vois que arriver avec ton petit panier à la Lisette Jambel, en faisant des galipettes...
Et si tu danses avec les requins, ne saigne pas.
Voilà, ça c'est beau. Merci beaucoup et merci Jean-Loup Dabadie de ce coup de fil très sympa. Merci à vous Jean-Paul Chambas d'avoir accompagné votre ami Edouard Baer, et puis merci à vous Edouard pour ces élucubrations.
Merci de me remercier Vincent.
Voilà, on passe notre temps à se dire
oui, jamais. Voilà. Merci de nous avoir écoutés, de nous avoir supportés. Quant aux autres, peut-être le regretterez-vous, peut-être pas. Vous avez choisi notre radio. Aviez-vous raison, on ne le saura jamais.
Les élucubrations d'un homme soudain frappé par la grâce. Edouard Baer, c'était délicieux de vous avoir. Merci beaucoup. La semaine prochaine, Eric Orsenna sera à votre place. Et dans un instant sur RTL, vous retrouvez Jean-Alphonse Richard pour un confidentiel consacré. Tiens, on parlait des hommes durs. Hoffman, Sylvester Stallone. On va parler de Rocky.
Ok Vincent, ça ne me pose aucun problème quant à moi.
À la semaine prochaine. Bon
Eric
samedi
Orsenna, l'enthousiaste.
RTL, le journal inattendu.